Booster Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Gilles Ayot est né le 5 juin 1928 à Paris, il est mort le 24 mars 2005 dans la même ville. C'est un peintre, un auteur, un scénographe français. Il est exposé actuellement au Centre Pompidou jusqu'au 24 février. Alors, c'est de la peinture figurative, aussi négligée par les conservateurs que la musique mélodieuse le fut par les musicologues officiels, chacun son snobisme, mais voilà. Le Centre Pompidou met Gilles Ayot à l'honneur et du coup, on découvre ce peintre animalier, mais plus qu'animalier. Fils d'un architecte moderne, il peint des cages, des structures de béton, des grilles, bref, un univers carcéral. Seules deux toiles mettent en scène des humains, un pilote américain dont l'avion a été abattu et qui marche en joue d'un Viet Cong, nous sommes en 1968, et deux mineurs, gueules noires, peints en 1971, suite à l'accident de Fourquier-les-Lances qui avait fait 16 morts. Alors oui, le propos est politique, farouchement anticapitaliste, une protestation qui étonne et fait du bien, ma foi, dans le politiquement correct ambiant. Stéphane Covio et Guillaume Sébastien, bonjour à tous les deux. Vous avez visité cette exposition à Beaubourg. D'abord, est-ce que vous connaissiez Gilles Ayot avant cette grande rétrospective ?
Oui, moi je connaissais plutôt de nom d'ailleurs. Ouais. Ce n'est pas un artiste extrêmement connu dans le monde de l'art contemporain. Des artistes qui sont beaucoup plus connus que lui.
Il n'a pas fait beaucoup de pub du temps de son vivant d'ailleurs.
Non, il écrivait, mais il parlait pas. Il y a eu des émissions sur France Culture sur lui, des articles, mais il a peu exposé de son vivant. Je ne sais pas quelle était l'importance de sa production, puisque finalement il y a assez peu de tableaux qui sont montrés au Centre Pompidou, une quarantaine. J'ai l'impression que c'est un artiste qui était un grand intellectuel, même quelqu'un de politique. Il a eu des fonctions dans le milieu de l'art, puisqu'il a été président du Salon de la Jeune Peinture en 65, était un salon extrêmement connu, renommé en plein milieu des années 60, où quand même une période très politique pour l'art. Vous voyez, les artistes étaient engagés. Ouais. Se disputait beaucoup, notamment contre l'impérialisme américain, qui quand même, à cette époque-là, prenait le dessus. En 64, c'est quand même le prix de la Biennale de Venise qui est remis à Rauschenberg, l'américain. Donc, c'est difficile de ne pas parler de Gilles Ayot dans ce contexte. Ouais. Mais pour venir à votre question, non, je connaissais Gilles Ayot de nom. J'avais bien sûr, je sais ce qu'il faisait. J'avais vu quelques œuvres de lui comme ça, mais surtout dans des livres, mais pas d'exposition. Donc c'est une bonne surprise, une bonne nouvelle que le Centre Pompidou, on dit tout le temps que les musées consacrent des expositions à des gens qui sont ultra connus, archi connus, donc c'est bien, bravo au Centre Pompidou d'avoir consacré une exposition à ce peintre qui n'est finalement pas si connu dans l'art contemporain.
Et vous Stéphane Covio, vous le connaissiez ?
Alors moi je le connaissais au départ, pas par sa peinture, mais par ses écrits. En fait, Gilles Ayot a failli faire l'école normale supérieure. C'est quelqu'un qui a une formation littéraire très importante. Et à l'époque où je m'intéressais à Vermeer, j'ai lu l'article qu'il a écrit, qui est plus qu'un article, qui s'intitule « Voir sans être vu » et qui est consacré à la peinture de Vermeer. Et c'est une des lectures les plus fabuleuses que j'ai lues sur Vermeer. Il y a trois textes majeurs sur Vermeer, il en fait partie. Et évidemment, c'est un peintre qui regarde un autre peintre. Et en plus, il a le verbe pour accompagner son regard. Et j'ai le souvenir de choses qu'il a écrites. D'ailleurs, le titre du livre, « Voir sans être vu ». C'est la situation du spectateur face à la dentelière de Vermeer, face à l'astronome de Vermeer. Déjà, c'est la situation de celui qui regarde. Ensuite, dans cet article, il parle du regard que Vermeer a sur les choses et sur les êtres qu'il peint, en développant une description de cette attitude qui est lumineuse, qui n'est pas forcément évidente à comprendre, mais il dit, pour peindre comme Vermeer, il faut avoir une attention extrêmement soutenue en même temps qu'une décontraction, pour que l'effort que vous mettez à percevoir ne se transforme pas en saisie de ce que vous voyez. Et ce qui permet à Vermeer, dit-il, de manifester les choses telles qu'elles sont, de les laisser être en face de lui pour les peindre, et de parvenir à ce qu'il appelle, lui, en reprenant une expression de James Joyce, je crois, en parvenant à une épiphanie de la chose, dit-il. Et c'est magnifique tout ce qu'il écrit, il n'y a pas que ça. Ici, il est intéressé aussi à la manière qu'a Vermeer de peindre des choses banales, mais de leur donner de la profondeur. Et ici, Nietzsche, à propos de cette banalité, dit c'est comme une tragédie antique de Sophocle, par exemple. Sa banalité en masque la profondeur, mais sa profondeur en fait oublier la banalité.
Alors, est-ce que ces réflexions sur Vermeer, il se les attribue aussi à lui-même, ou est-ce qu'on pourrait les plaquer sur ses propres peintures lorsqu'on les voit en ce moment au Centre Pompidou ?
Alors, ce qu'on peut observer, moi, ce qui me frappe dans la peinture de... Il y a beaucoup de choses, hein. Moi, je trouve que c'est une peinture très, très riche. D'abord, c'est un peintre de la lumière.
Oui.
Manifestement. Il a un art très particulier, et je veux dire même très virtuose, par exemple, de peindre le mouillé, de oui. peindre le reflet.
On sent une grande technique. Hein.
Ah oui, il y a une technique parfaitement maîtrisée, mais en même temps, c'est pas une démonstration de technique du tout, son travail. Hein. Mais on voit bien qu'il y a, la technique est là, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Moi, j'ai un tableau en tête.
Le rhinocéros ?
Alors, ben moi, c'est l'hippopotame, figurez-vous.
Oui, c'est
pas très éloigné.
Oui.
Hein. Il y a deux cornes en plus. Mais il y a plusieurs hippopotames dans l'exposition. Mmh. Enfin, pour dire à nos auditeurs, c'est un peintre qui peint essentiellement... Il y a deux types de tableaux présents dans l'exposition. C'est des animaux dans des eaux ou des animaux dans la savane. Donc, c'est intéressant, en liberté, en captivité. Et les premiers types d'animaux qu'il a peints, c'est des animaux en zoo. Donc, l'hippopotame auquel je pense, c'est un grand tableau. Très bien exposé, on est tout seul, il y a une petite alcôve pour le regarder, un petit banc, c'est royal, et c'est une grosse masse ronde, une grosse saucisse lourde, sur quatre pattes, et puis il est tourné vers la droite, il vient de monter un escalier, et puis il va tourner à droite, mais pour ça il faut que quelqu'un lui ait levé une grille, quelqu'un qu'on ne voit pas, la grille est levée. Oui, je vois que vous levez le doigt, vous avez quelque chose à dire, Christophe.
La structure du mur est métallique, vous avez remarqué.
Oui, alors c'est béton et métal.
Absolument.
Tout est froid, ouais. Tout est anguleux. On a l'impression d'être soit dans une prison, soit dans un hôpital. Moi, j'ai pensé, en voyant cet hippopotame, à un gros monsieur qui va soigner son diabète dans une maison de cure à bas prix, vous voyez. Il y a de l'eau qui dégouline. Il a déjà pris son bain. Il va rejoindre ses appartements, avec tous les guillemets qu'il faut. On ne voit pas l'homme.
Non.
Mais il est omniprésent. C'est-à-dire que on voit bien que ces mécanismes de poulies qui font monter la grille, il faut bien qu'ils soient actionnés par quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui a construit toute cette architecture. Il y a quelqu'un derrière la porte, parce qu'il y a une visière noire, et on devine la possibilité d'un regard de gardien de prison, quasiment, qui est là-bas derrière. Et il y a nous. Parce que le spectateur est drôlement envisagé. Et là, je pense à ce qu'il a écrit sur Vermeer.
Ouais.
Parce que nous sommes situés. Il y a une espèce de parapet, qui est une rambarde grillagée, et on est là, en deçà. Notre lieu est présent dans l'image, et on voit l'animal qui est là. Il est dans cet espace intermédiaire entre les hommes qui sont derrière, que l'on ne voit pas, et nous qui voyons.
Mais la patte humaine est complètement déshumanisée dans cette peinture.
Ah ben c'est archi déshumanisé.
C'est terrible.
Et en même temps, l'homme est archi responsable de la situation.
Mais oui.
Est totalement impliqué dans l'opération. C'est là que c'est politique.
Mais c'est un message très fort.
Donc, puisqu'on pourrait parfaitement... Alors, on pourrait ne parler que des animaux.
Oui. Guillaume, c'est ça. C'est un artiste terriblement singulier. Et l'exposition est incroyable parce que, en fait, on peut presque y emmener ses enfants voir
Absolument.
L'exposition. Parce que les tableaux représentent des animaux aux zoos, avec d'ailleurs les couleurs qui ne sont pas celles des zoos, puisque les tableaux sont extrêmement colorés. Moi, je n'ai jamais visité un zoo où il y a... les cages sont bleues.
Non, j'ai toujours vu ça en gris, moi.
Orange, jaune. Donc, c'est très agréable à
voir. C'est un temps de novembre, un zoo, pour moi.
Donc, c'est très agréable à voir. On voit ces tableaux d'animaux, des très gentils animaux. Vous voyez, il y a une très grande tendresse. Alors, il faut quand même savoir que Gilles Ayot, ce sujet des animaux qui a été son seul sujet après des tableaux plus politiques qu'il a fait avant, ça lui vient de quelque part. Hein. Il a été très jeune au Jardin des Plantes, sans doute emmené par ses parents, et il crayonnait ces animaux qu'il avait devant lui. Donc il dit, j'avais beaucoup de tendresse, j'aime les animaux, quand on lui pose la question, mais pourquoi peignez-vous des animaux ?
Il y a un regard très bienveillant. Hein,
voilà, très bienveillant.
Et finalement, de sa peinture, sort la bienveillance sur l'animal.
Alors donc, on a ce premier rapport avec l'œuvre des animaux, donc c'est un sujet extrêmement banal. Et puis après, on apprend que ce Gilles Ayot a failli être normalien, il a été collé par Merleau-Ponty. Donc, comme disait Stéphane, il a écrit des choses extrêmement intéressantes et justes sur Vermeer. Donc, c'est une peinture qui est très chargée, qui est très riche. Dans le communiqué de presse de l'exposition, ils disent que c'est une peinture lettrée. Alors, je ne sais pas si c'est une expression de Gilaillot lui-même, et on dit que Gilaillot peignait philosophiquement.
Oui.
Donc ça, c'était intéressant par rapport, encore une fois, au sujet qui est ce sujet des animaux extraordinaires.
Et c'est d'autant plus passionnant que, à vous écouter, il y a ce côté intellectuel, philosophisant, etc. Il n'empêche que lorsqu'on voit l'étoile, on ne se prend pas la tête.
Non, c'est vrai.
Hein, c'est vraiment immédiat.
Oui, oui, c'est immédiat. Est-ce que disait Guillaume, on pouvait emmener les enfants.
Ah oui.
Et puis c'est agréable à regarder en plus.
Oui.
C'est une peinture qui est assez séduisante. Et je continue à réfléchir là en vous entendant parler. Je me disais aussi, vous parliez de l'animal qui est en face de nous, et en même temps il y a une distance. Comment dire, il n'y a rien de larmoyant, il n'y a pas de sollicitation de l'apitoiement. On est mis à distance, et cette fameuse rambarde là que j'évoquais tout à l'heure, je l'aime aussi, je l'adresserai d'un point de vue psychologique aussi. Il y a quelque chose d'assez froid dans cette relation qu'il met en place entre lui là-bas, l'animal, et nous ici, qui laisse justement la place à plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs possibilités de réception. C'est-à-dire qu'il ne nous impose pas du tout son message, excusez-moi, ce qui serait pour moi extrêmement péjoratif. Il y a une évidente place pour différents types de messages, mais on est laissé très libre là-dessus. Et en plus, c'est riche, c'est très très riche. C'est-à-dire que ça peut nous envoyer dans pas mal de directions. Beaucoup de gens ont fait le rapport avec les réflexions des années 60-70 sur la condition carcérale, sur l'enfermement, sur le contrôle de la société sur l'individu. Aujourd'hui, on voit très bien comment ça entrerait dans la conscience de plus en plus grande qu'on a du bien animal, des choses comme ça. Mais il y a plus que ça, c'est pas lourd du tout. Moi, il y a un tableau qui me frappe énormément, c'est avec le même type de sujet, c'est celui où on voit la piscine, mais je vous en parlerai un peu après.
Oui, en fait, vous parliez des couleurs tout à l'heure.
Oui, parce que les tableaux sont extrêmement colorés.
Et elles sont frappantes.
On est accueilli par un très grand tableau qui est un phoque, je crois, dans une sorte d'océan vert. En fait, on imagine que c'est le bassin dans le zoo dans lequel ce phoque
évolue.
Les tableaux sont bleus. Il y a un magnifique tableau des panthères qui est avec une lumière et des couleurs extrêmement dorées. C'est une peinture qui est extrêmement colorée. Je reviens sur ce que disait Stéphane à l'instant. On a posé la question à multiples reprises à Gilaillot, pourquoi ces animaux, dont je disais, parce qu'il a répondu « j'aime les animaux », mais on a voulu faire des interprétations, bien sûr, de ses œuvres. Et lui, très clairement, il l'a dit et répété, disait je ne veux pas qu'on interprète mes œuvres, je veux que vous preniez mes tableaux tels qu'ils sont, ce qu'ils représentent, c'est-à-dire des animaux, et surtout de la peinture, vous voyez, c'est ça qu'il voulait, mais il trouvait qu'on surinterprétait.
C'est pas les fables de La Fontaine.
Non.
Mais il y a une sauvagerie aussi dans ces animaux.
Vous la situez où, Christophe ?
La sauvagerie, dans le décalage qu'il y a entre le côté nature, j'irais le côté culture ou industriel. Ce décalage, je trouve, est extrêmement sauvage. Voilà.
Et moi, justement, en lien avec ça, la sauvagerie du dispositif.
Oui, tout à fait.
Calmement accepté.
La cruauté.
La cruauté.
Plus que la sauvagerie, la cruauté, pardon.
Il y a une scène qui est prise Certainement, il y a pas mal de tableaux qui sont issus de photographies, ça se voit. Il y a une scène qui se passe dans un zoo allemand, puisque les choses sont écrites en allemand. En plus, en allemand, avec la calligraphie gothique.
Oui, absolument.
Donc c'est là que j'ai découvert que hippopotame, c'était Flusspferd, finalement, exactement, la traduction littérale. Animal de fleuve. On voit, dans ce tableau qui est immense, en fait, l'hippopotame, il est tout à distance, il est en haut à droite, en fait, il est allongé dans un box grillagé. Et l'essentiel du tableau, c'est la piscine vide. C'est la piscine vide, on a retiré l'eau, elle est un peu sale en bas, quelques excréments peut-être qui sont passés par là. Puis il y a un tuyau qui passe. Alors c'est toujours la présence humaine.
Oui.
Il a bien fallu qu'on vide cette piscine, il y a quelqu'un qui est certainement en train de nettoyer, mais on ne le voit pas. Et en fait, c'est comme si on était au zoo à une heure de non-ouverture du zoo, puisqu'on voit ce qu'on n'est pas censé voir. L'animal n'est pas du tout en représentation, il est là-bas au fond, bon, voilà. On est toujours très très bien situé, c'est archi-orthogonalisé par les lignes droites de tous les côtés, le point de fuite, tout est archi-métrique. Il y a aussi, c'est ça, c'est-à-dire que de la part du peintre, il construit, c'est archi-construit. Il n'y a pas que le bâtiment qui est construit, l'image est archi-construite. C'est-à-dire qu'on est avec des images archi-construites, archi-organisées, de lieux très organisés, très construits. Mais c'est vraiment aussi du côté de l'artiste.
C'est tout à fait juste. En fait, Gilles Aillot prête attention aux animaux, mais j'allais dire autant aux endroits dans lesquels se trouvent ces animaux.
Et
les points de vue à partir desquels effectivement, il construit, il peint ses tableaux, varie beaucoup. Donc il y a une grande réflexion sur le lieu, qui est ces cages sont en général assez vides. Un tableau, par exemple, qui s'appelle La Fosse, j'ai mis plusieurs minutes pour me rendre compte qu'il y avait un lion qui est couché tout au fond de cette fosse. Donc le véritable sujet de ce tableau, c'est l'endroit dans lequel se trouve cet animal. Et qui lui est...
Et la porte rouge sur la gauche.
Oui, absolument.
Qui est fermée, qui est cloisonnée. Mais on sent que c'est de là qu'arrivera éventuellement l'activité humaine. Moi, je trouve ça... Je trouve formidable cette façon de placer l'homme en déshumanisation. Vous voyez, ça fait froid dans le dos parfois, mais c'est vraiment très beau.
Alors... Il y a un mot qu'a prononcé Guillaume que j'ai envie de reprendre, il est tout simple, c'est le mot vide.
Oui.
L'importance du vide dans ses compositions. Et du coup, de la solitude.
Terrible.
C'est souvent un animal seul, à plusieurs reprises. Ou alors, parfois il y a deux rhinocéros qui sont dans la même image, mais séparés par une grille, posés sur le sol. C'est terrible parce qu'on a l'impression que c'est un couple séparé. Enfin, vous voyez, comme tout ce qu'on peut fantasmer à partir de là. Cette solitude de l'animal... Enfin, en tout cas, que spontanément, on peut aussi mettre en relation avec la solitude de l'homme. De toute façon, en fait, nous sommes placés nous-mêmes dans une situation de solitude en le regardant. Et il y a des tableaux dans lesquels il n'y a même pas d'animaux, il n'y a rien. Notamment un tableau qui a comme titre « Le Judas ». Et le Judas, c'est juste en fait un Judas de porte. C'est-à-dire qu'on voit une porte, le tableau est jaune, et on voit une porte jaune, hein, qui est un rectangle vertical, une portion de mur à droite de la porte, une portion de mur à gauche. Un miroir ou quelque chose, on ne sait pas très bien. Il y a quelque chose de pas clair dans la mise en espace de l'ensemble. En bas, il y a un sol aggloméré peint de manière pointilliste, très joli, mais étonnant. Et il y a au milieu de cette porte, située de manière totalement incongrue, puisque c'est le milieu de la porte, donc c'est très bas, en fait, ce trou. Ce trou qui est un petit rond noir, avec un petit reflet de lumière dessus. Et en fait... Vu que l'observateur n'est pas de notre côté, il est nécessairement de l'autre côté. Donc on doit être du côté de l'animal. Et donc c'est comme si de là-bas derrière on était regardé. Et c'est saisissant. Hein. C'est un petit peu angoissant si on le veut bien, si on se laisse aller. Moi ça m'a fait penser à du Magritte aussi de voir cette porte comme ça. On a des rapprochements.
Parce que tellement réaliste.
Archi-réaliste. Oui. Archi-réaliste. Magritte a l'art de représenter par moments des choses tout à fait réelles, mais à un degré de réalité que ça en devient étrange. Mais là, c'est quasiment ce qu'il fait.
Mais il y a un humour belge que n'a pas Gilles Aillot.
Peut-être bien.
Cette espèce de distance et de poésie. Mais est-ce qu'il y a une poésie, justement, dans cette peinture de Gilles Aillot ?
Ah oui, très, 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 très certainement. Oui, bien sûr. On le sent beaucoup. Et alors, quelque chose dont il faut absolument parler, c'est que dans l'exposition, je parlais tout à l'heure de ce phoque qui nous accueillait, et dans la salle suivante, il y a deux ou trois très grands tableaux que Aillot a réalisés après un séjour qu'il a fait au Kenya en 1990. La plupart des tableaux datent des années 70. Mais après, il est allé... dans le pays par excellence où vivent ces animaux en liberté.
Okay,
et c'est assez extraordinaire de voir la différence avec laquelle peint Gilles Aillot ces animaux en liberté.
C'est joyeux.
Des immenses formats, les oiseaux, les flamants roses volent, les girafes, l'éléphant, on voit simplement son derrière, et pas de face. Et là, on sent effectivement une très grande poésie. On voit que, effectivement, Gilles Aillot aime ces animaux, notamment quand ils sont en liberté. Et là, il les prend.
Oui.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Guillaume, mais je pense qu'en plus aussi, il y a aussi de la poésie dans les situations enfermées. Parce qu'il y a un ressort poétique là-dedans, par les situations, par les couleurs. Ce phoque qui nous regarde droit dans les yeux, avec les grands yeux ouverts, donc quand on arrive là, et en même temps avec une certaine distance, cette espèce de relation. Tout est poésie là-dedans, hein, même si c'est plus sombre. C'est différents styles poétiques.
Oui, moi j'ai trouvé que c'était tragique.
Il y a du tragique.
Enfin, il y a du tragique terriblement. Sauf, en effet, dans le plein air, où là, on voit quelque chose de très gracieux, de très joyeux, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, les couleurs partent la palette est énorme dans ces peintures-là par rapport aux intérieurs et aux eaux.
Oui, et avec une façon de peindre qui est très différente des tableaux des jardins zoologiques, comme il les appelle. La peinture est beaucoup plus relâchée. En regardant de près les tableaux, c'est assez esquissé, comme s'il avait voulu justement donner, avec ce relâchement du crayon, de son pinceau, la liberté à ces animaux qu'il représente.
Et alors, des grands formats, essentiellement.
Essentiellement, alors je reviens sur la poésie, parce que j'en ai une dans l'œil et dans la tête au moment où vous parliez. Ces fameux deux lions qui sont dans une cage bleue, eh bien, ils sont posés sur des planches, comme sur des étagères. C'est tout à fait surprenant, cette espèce de litière surélevée là. Et ils ont, l'un ou l'autre a une patte qui tombe. Et avec la nonchalance du félin, c'est impressionnant de voir cette patte là. Ils sont là comme tranquilles et souverains derrière cette prison. Et il y a une poésie de la lumière, il y a une espèce d'éclairage totalement invraisemblable, comme s'ils étaient avec des effets d'ombre impossibles sur ces deux animaux. Ils sont là comme trônant majestueusement et en liberté dans cet espace, en revanche, totalement fermé, mais qui est une poésie de la couleur aussi. Il y a les jeux entre les bleus et les ocres. Enfin, c'est pas classable. Enfin, comment dire, on peut pas. Il y a une ressource interne de l'image qui fait qu'on ne peut pas l'enfermer dans un simple registre interprétatif.
Alors, grand format, oui, bien sûr, essentiellement. D'ailleurs, c'est peut-être une raison pour laquelle Gilles Ayot exposait peu dans des galeries, hein, puisqu'ils sont des espaces plus réduits. Mais dans l'exposition, on voit toute une série de dessins, de gravures, hein, qui sont des petits dessins qu'il a réalisés avec un ami poète, qui ont été édités sous forme d'une encyclopédie. Et là, ce sont des portraits, en tout cas des dessins qui représentent des animaux de façon frontale. Il y a toutes sortes de bêtes et donc ces dessins sont exposés dans le centre de l'exposition.
Vous parliez, Gilles Covio, tout à l'heure, de travail sur la photographie. À partir de la photographie, c'est-à-dire qu'on va retrouver un peu l'American painting des années 70-80, où on reproduisait un peu ce que la diapositive projetait sur la toile.
En tout cas, il y a des rapprochements qui ont été faits entre sa peinture et un moment du pop art. Je ne veux pas rentrer personnellement dans ce sujet parce que je ne le maîtrise pas. En tout cas, je sais que lui est assez en arrière de la main par rapport à ce genre de parallélisme. Mais clairement, il a utilisé des photos.
Oui. Alors, je l'ai entendu dire qu'il a utilisé la photographie, effectivement, mais plutôt par paresse. En ajoutant qu'il n'était pas photographe et que ce n'était pas du tout le support qu'il aidait principalement pour faire ses tableaux.
Parce que revenons sur les grands formats. Enfin, en 2005, c'est un vieux monsieur. En 2000, c'est un vieux monsieur. Et quand il peint des formats comme ça, il y a tellement de détails, c'est tellement précis comme peinture qu'on se dit, mais.
Les dernières œuvres qui sont montrées dans l'exposition datent de 90, je crois, donc c'est quand même une quinzaine d'années avant sa mort.
Ouais. Enfin, il y a 70 ans,
les artistes sont encore jeunes. Hein.
Oui,
donc il a 62 ans en 90.
Oui, donc il était très jeune. On est d'accord, il pouvait vraiment faire ses peintures. Il aurait pu faire des formats encore plus grands. Mais enfin, c'est terrible pour un peintre de choisir de grands formats comme ça, parce que effectivement, on peut pas les vendre en galerie. Donc, c'est forcément de la commande publique. C'était peut-être ce qu'il voulait.
Oui, mais écoutez, c'était ce qu'il voulait.
Est-ce qu'on en trouve dans les musées?
Je ne sais pas. Il y a beaucoup de tableaux qui sont à Pompidou, qui sont des œuvres de collections privées ou qui appartiennent à des galeries. Alors, ce sont des tableaux qu'on peut quand même mettre chez soi quand on a un grand intérieur, puisqu'il y a quand même, la plupart font peut-être 1,50 m à 2 m. Parfois, des gens ont des espaces pour accrocher des tableaux de ce format-là.
Merci Stéphane Covio et Guillaume Sébastien. Je rappelle que l'exposition Gilles Ayot se tient au Centre Pompidou jusqu'au 26 février. C'est de 11h à 21h et nocturne le jeudi jusqu'à 23h. Merci aussi à Cédric Cobat, Philippe Malpeuch, François Dieudonné, Camille Meyer et Louis-Marie Picard pour la réussite technique de ce Culture Club. Demain, eh bien, nous parlerons littérature et j'espère que nous nous y retrouverons. Je vous embrasse.